Thibaut de Rouvray, bonjour.
Bonjour Mathias Thierrier.
Bienvenue dans ce rendez-vous qui est le vôtre d'ailleurs, je vous dis bienvenue, mais vous êtes chez vous ici dans ce rendez-vous qui s'intéresse à notre patrimoine. Et nous allons, durant deux émissions, nous plonger dans les cloîtres. Bon, pour une bonne raison d'abord, c'est qu'on vous doit un ouvrage, Le cloître du jardin Masset, paru aux éditions Jour des Arts, magnifique ouvrage s'il en est, tant du point de vue de la recherche, puisque nous parlons là du cloître du jardin Masset de Tarbes, du point de vue de la recherche historique que l'on vous doit, mais également des illustrations. Mais c'est promis, on le promet à nos auditeurs, nous en parlerons à plusieurs reprises peut-être au cours de ces émissions, de ces chroniques, mais il y aura une émission spéciale sur ce livre que l'on vous doit et qui vient de sortir. Alors, Thibaut de Rouvray, les cloîtres, bon, chacun peut imaginer ce dont il s'agit. Bon, c'est un lieu clos, fermé. Mm-hmm. On peut, pour cette première émission, entrer plutôt dans la question de l'origine des cloîtres et puis de la signification, au fond, de ce qu'est un cloître. C'est quoi la définition ?
Alors effectivement, comme vous disiez, ça fait référence à un lieu qui est fermé. L'étymologie d'ailleurs, claustrum, ça renvoie à la notion de barrière, de serrure, hein, un lieu qui est isolé en fait du reste du monde. Avec, alors si on se place au nord de la Loire, on va utiliser le mot cloître qui a dérivé dans le français moderne. Et puis dans le sud-ouest, en Languedoc, en Gascogne, on va parler de clastre ou claustre, qui peut désigner aussi le presbytère, le lieu d'habitation du prêtre.
Et donc, le mot lui-même, il s'est formé comment, le mot cloître ?
Alors, il s'est formé voilà, sur cette racine latine, mais en fait, il a souvent désigné quelque chose d'assez large, c'est-à-dire qu'on parle, quand on évoque le cloître, on ne parle pas que d'une partie de l'abbaye, mais de l'abbaye ou du monastère dans son intégralité.
Oui, donc c'est ça, le mot lui-même, normalement, a une acception un peu serrée, hein, réduite, mais par extension, on est allé plus loin. C'est toute l'abbaye et tout le monastère qui est désigné ainsi. Et que ce sont les écrivains qui sont allés vers cette tendance-là, non ?
Oui, beaucoup. Alors dans les textes liturgiques, c'est vrai qu'on trouve un peu le mot, mais c'est surtout effectivement les écrivains et les poètes qui emploient ce terme. Alors, parfois avec une idée un petit peu romantique, un peu fantasmée de lieu où on va trouver une réclusion plus ou moins volontaire. On peut citer un vers de Shakespeare, « Au cloître, allons et au plus vite, adieu ». Et aussi dans le Cid de Corneille, « Quand un cloître sacré, je pleure incessamment ».
Oui. Donc tout cela est une vision un peu élargie de la question du cloître. Souvent, le cloître, on l'associe aux moines. Est-ce que c'est toujours le cas d'ailleurs ? Est-ce que c'est toujours associé véritablement à la vie monastique ?
Alors c'est associé en tout cas à la vie d'un ensemble de prêtres qui vivent en communauté, donc normalement séparés du monde extérieur. Donc on a évidemment les cloîtres dans les abbayes, mais on peut avoir aussi des exemples de cloîtres urbains, à côté notamment de cathédrales où les chanoines vivent en commun, d'où le nom par exemple au chevet de la cathédrale Notre-Dame à Paris, le nom de la rue Cloître Notre-Dame.
C'est quand même aux moines que l'on doit le développement quand même de cette démarche de vivre dans un cloître.
Oui, voilà, l'origine, vraiment, l'origine physique dans le bâti de cette disposition de galeries autour d'une cour, voilà, c'est vraiment adapté à la vie en communauté en dehors du monde, en fait.
Et on le doit à Saint-Benoît en particulier, parce qu'il est assez connu quand même, ce Saint-Benoît, on le rappelle, hein, c'est le 6e siècle.
Voilà, Saint-Benoît de Nursie, voilà, qui vit en Italie, qui meurt au milieu du 6e siècle, qui est à l'origine en fait, de la règle de Saint-Benoît, de la règle bénédictine, et donc de toutes ces communautés religieuses de bénédictins qui vont adopter ce plan, donc qu'on appelle le plan bénédictin, où les différents espaces de l'abbaye s'organisent autour d'une cour intérieure.
Donc si on comprend bien, cette architecture du cloître, en fait, elle est totalement adossée à un désir de vie, la vie retirée.
Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que Saint-Benoît, dans sa règle, ne donne pas des directives très précises quant à l'architecture de l'abbaye. On n'est même pas sûr que les abbayes qu'il a fondées lui-même, que ce soit le Monte Cassino ou Subiaco, aient été disposées autour de cloîtres. Mais en tout cas, très rapidement, ses premiers héritiers, ses premiers moines bénédictins vont adopter ce plan.
Donc l'idée de faire ce qu'on appelle l'expérience du désert, enfin le désir de faire cette expérience du désert, nourrit aussi d'une certaine façon l'origine du cloître.
Oui, alors c'est vrai que ce désir de se retirer au désert, il naît plutôt en Orient avec des figures comme Antoine ou Pacôme, ensuite en Grèce avec Basile, et ensuite cette démarche spirituelle rejoint l'Occident où elle va être adoptée donc par un certain nombre de figures comme Honorat, Césaire d'Arles ou Jean Cassien, et puis ensuite Martin de Tours ou Colomban. Donc voilà, tout cela prend ses racines en Orient et ensuite dans la vie des ermites.
Ces ermites, ces moines, enfin comme on voudra, en tout cas ces saints, pour beaucoup d'entre eux,
Oui.
n'ont pas vécu dans des cloîtres. Là, c'est pas à cette époque-là que naissent véritablement, au plan architectural, les cloîtres.
Non, voilà, il faut imaginer que ces premières figures spirituelles, ces ermites, notamment en Orient, vivent plutôt dans des lieux austères, mais des lieux naturels comme des grottes, ou en tout cas, il n'y a pas, il faut pas imaginer, voilà, de construction très développée à l'origine.
Donc on date de quand en fait l'existence de cloîtres, d'un cloître le premier, si on devait en trouver un, ce serait lequel?
Alors c'est toujours un peu compliqué de répondre. C'est vrai qu'il y a à la fois l'apport des textes et puis de l'archéologie. En Orient, on devine peut-être des cloîtres dès le 5e siècle, dans des lieux d'habitation, de résidence de ces premières communautés de moines ermites. Et en Occident, voilà, on a une trace bien datée par l'archéologie. C'est en Allemagne, à l'abbaye de Reichenau, qui est fondée en 724. Et là, dès le milieu du 8e siècle, donc dès les années 750, on a la trace d'un premier cloître en bois qui a été retrouvé par les archéologues et qui déjà est disposé avec quatre galeries qui entourent un espace intérieur de 100 pieds de côté.
Nous aurons l'occasion, hein, je le dis à nos auditeurs, de parler des cloîtres de notre région. On pense aux Jacobins à Toulouse, on pense à Moissac, Encalcate, même Tournai, pourquoi pas, qui est un cloître moderne, puisqu'il a été construit, je pense, au milieu du XXe siècle, dans les années 1950. Mais on continue sur l'origine de tout cela. Est-ce que l'on doit à quelqu'un l'expansion, le développement de cette démarche du plan officiel, monastique? Avec le cloître au cœur.
Oui, alors c'est vrai que souvent on fait référence aux premiers disciples de Saint Benoît qui ont pu vivre à Rome, peu de temps au 6e, 7e, 8e siècle. Mais effectivement, il y a un vrai développement qui est imposé à cette architecture à l'époque de Charlemagne, au sein de l'Empire carolingien, où là on a vraiment une sorte de plan type de modèle, de plan d'abbaye qui va voir le jour.
Ça sert Charlemagne lui-même, d'une certaine façon, que se développe ce modèle officiel du plan monastique?
Oui, alors c'est vrai qu'on a souvent l'image de Charlemagne comme favorisant les écoles, et il s'appuie vraiment sur les abbayes, sur tout un réseau d'abbayes au niveau de son empire, qui est quasiment à l'échelle de l'Europe. Et dans ces abbayes, voilà, les prêtres, les moines, les abbés vont diffuser la connaissance, le savoir, et aussi être des relais de la politique de Charlemagne.
Il y a des décisions clés, il y a des dates qu'on pourrait, ou une date qu'on pourrait rappeler sur ce sujet?
Oui, alors souvent on donne un exemple, un plan qui est miraculeusement conservé, qui date du tout début du 9e siècle, qui est le plan proposé pour l'abbaye de Saint-Gall, donc en Suisse. Ce plan, il a probablement été élaboré, officialisé au cours du concile d'Aix-la-Chapelle en 809 par un autre Saint-Benoît, donc Benoît d'Agnan.
Oui, donc ça c'est l'abbaye idéale, on peut la qualifier ainsi?
Oui, alors parce que même à Saint-Gall, on n'est pas tout à fait sûr que le plan ait été réalisé en totalité, mais on pense, les historiens imaginent que ce plan qui est conservé pour Saint-Gall avait été envoyé à toutes les abbayes de l'Empire carolingien pour servir de prototype, de modèle de construction.
Donc voilà, c'est vraiment le modèle officiel qui est né ainsi.
Voilà, tout à fait. Donc on est au tout début du 9e siècle.
Alors, sur le bon, on en a déjà parlé, hein, de ce qu'est un cloître véritablement, sur son utilité. Est-ce qu'on peut s'étendre pour terminer cette chronique là-dessus, sur ce qu'il fait véritablement, sur le rôle qu'il joue au sein de l'abbaye?
Oui, donc il faut imaginer que c'est un espace en principe carré ou rectangulaire. Donc au centre, il y a une cour, un jardin qu'on appelle le préau, et quatre galeries qui entourent ce préau. Ces galeries, elles sont bordées de murs pas très hauts, de murs bahuts sur lesquels reposent des colonnades avec donc les chapiteaux, les arcades et les bases. Et il y a bien sûr une toiture qui recouvre ces galeries. Et cela permet à la fois aux moines de déambuler, d'avoir un espace un peu où il peut marcher, hein, puisque le moine, en principe, ne quitte pas le sein de la clôture. Et c'est un espace aussi qui va desservir les différents lieux utiles à la vie religieuse.
Oui, il y a même assez rapidement bien sûr, des galeries avec des dénominations, des rôles spécifiques, des orientations qui sont décidées, hein.
Oui, donc on peut un petit peu les partager en deux groupes de deux. Alors il y en a deux qui sont très importantes, qui sur le plan spirituel et religieux, ce sont les galeries qui bordent l'église abbatiale, qu'on appelle souvent la galerie de la lecture ou de la collation, la galerie du mandatum, et la galerie est qui, elle, est bordée par la salle capitulaire, donc le lieu où les moines se retrouvent pour décider de l'avenir de la communauté par la sacristie. Et le côté peut-être un peu moins, les galeries un peu moins spirituelles, sont la galerie opposée à l'église abbatiale qui longe le réfectoire et la galerie ouest qui est souvent ouverte sur l'extérieur, sur des espaces de stockage ou sur l'hôtellerie monastique.
Quelle organisation, hein. On est assez émerveillé par toute cette organisation qui va se diffuser véritablement dans toute l'Europe et même au-delà, hein, on s'en rendra compte dans une prochaine chronique. Pour terminer, il y a un aspect symbolique, il y a peut-être même les théologiens qui se sont mêlés à cette logique architecturale.
Oui, parce que beaucoup de théologiens réfléchissent pour interpréter tout ce qui participe de la création, pour essayer de démontrer que c'est une œuvre divine, et notamment un théologien, je dirais, régional, Durand, évêque de Mende au XIIIe siècle, qui voit toute une symbolique dans la disposition du cloître avec quatre côtés. Il fait tout un parallèle aussi avec les quatre points cardinaux, les quatre fleuves du paradis, les quatre évangiles, et il voit dans chacune des pièces, des parties de l'abbaye et du cloître en particulier, à la fois un reflet du monde et de la création et une préfiguration de la Jérusalem céleste.
Magnifique, merci beaucoup pour tous ces éclairages, Thibaut de Rouvray. Je rappelle que vous êtes historien et que vous êtes président de la Société académique des Hautes-Pyrénées, mais que vous connaissez bien le patrimoine de toute notre région. La prochaine fois, si vous voulez bien, nous entrerons dans le développement de tous ces cloîtres et puis nous nous attacherons à regarder ceux qui y habitent. Ceux qui même jalonnent notre territoire, tous les cloîtres qui, pour certains, n'ont plus du tout une destination religieuse, d'ailleurs. Merci, à la
Tout à
prochaine
fait,
fois.
merci. Au revoir.